Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Bonjour Émilie Rabu.
Bonjour Nathalie.
Psychologue clinicienne, vous accompagnez la petite enfance et tout autour de l'handicap, des petits-enfants à l'adulte.
Tout à fait.
Hein, voilà. Vous avez vous-même cet handicap visuel.
Tout à fait. Je suis les deux
côtés de la barrière.
Des côtés de la barrière. Il y a la personne que je suis qui a ce handicap et puis la psychologue.
Vous sentez une femme pleinement libre aujourd'hui, même par rapport à cet handicap que vous portez?
Oui, mais à des moments, là, il y a des situations de vie qui m'y ramènent
qui
toujours
rappelle,
et qui m'y ramèneront toujours. Par exemple, si j'arrive pas à lire sur une affiche quelque chose, puisque mon handicap est visuel, je précise, voilà, ou que, par exemple, je ne peux pas conduire un véhicule, donc ça implique
c'est
aussi,
un handicap aussi.
Voilà, des choses que je peux pas faire tout le temps, et donc j'y pense pas en me levant le matin, bien sûr. Et je pense que c'est le cas globalement des personnes en situation de handicap, mais c'est quand il y a une situation de vie bien concrète qui fait que concrètement, il y a l'incapacité générée par cette situation de
Donc
handicap.
Donc il faut aussi une part de deuil quand on est adulte avec un handicap.
Oui, mais ce qui est compliqué, c'est Simone Corsos qui a travaillé sur le handicap et qui a écrit un livre très bien qui s'appelle le miroir brisé, que je conseille, qui parle du deuil impossible, de toute une vie. Elle dit que d'un côté, c'est un deuil impossible à faire, passer toute une vie, pour la raison que je viens de citer avant. C'est-à-dire régulièrement, une personne, elle est confrontée à la conséquence concrète, l'incapacité concrète de son handicap, c'est-à-dire ce qui l'empêche pas de faire comme les autres, ou pas suffisamment, ou pas du tout. Voilà. Et c'est-à-dire qu'une personne, elle se le reprend dans la figure. Donc, des moments, elle vit sa vie comme monsieur et madame tout le monde. Et c'est vrai que ça peut être parfois désagréable ou difficile d'être plongé là-dedans. Et ça peut amener une personne en situation de handicap, si c'est pas bien vécu, à être un peu dans un état de déprime régulière parfois, parce qu'elle fait pas
donc
ce qu'elle aimerait souhaiter.
Donc, vous en recevez et vous travaillez aussi avec ces patients qui vous consultent.
Tout à fait, oui, ça arrive. Oui.
La consultation, c'est ce besoin aussi de revenir sur cet handicap qui fait toujours souffrir, ou physiquement, ou moralement.
Il y a un moment où ce sera important de toute façon d'amener la personne et même de la questionner pour voir où elle en est sur
donc
ça.
Donc de revisiter son histoire avec
revisiter
son handicap.
Oui. Et je me rappelle une consultation, nous les psychologues, on travaille aussi avec notre senti, je l'ai pu dire, et donc je reçois une personne en situation de handicap, et à la sortie de l'entretien, j'avais un sentiment très fort d'un souci de est-ce que l'autre m'a accepté ? Le questionnement que moi j'ai pu ressentir parfois de est-ce que l'autre, mon handicap parfois se voit, donc c'est vraiment par rapport à ça, une gêne, voyez, une gêne. Et cette gêne profonde, mais je me suis dit, mais c'est puissant, d'où ça vient, on se questionne toujours. Et je pense que voilà, c'était celle de la personne. Et parfois, comme ça, s'il y a des vécus communs, des ressentis communs, eh bien, ça peut c'est la personne qui est en face de nous. Parfois, ça peut les solliciter chez nous. Voilà, c'est quelque chose d'assez connu chez les psychologues et avec lesquels on travaille. Et en tout cas, ça m'a amené au fait d'en reparler avec cette personne, en effet. Et oui, il y a des choses qui sont acceptées, intégrées de son handicap et d'autres moins. Donc, elle n'est pas forcément dans un vécu de déprime ou autre, mais ça dépend des personnes. Bien sûr.
Alors, c'est tous les âges de la vie, je le rappelle, que vous recevez en consultation l'adolescent avec un handicap. Voilà, autre problématique, autre type d'accompagnement, et on imagine un accompagnement bien plus complexe.
Exactement, parce que comme tout adolescent, l'adolescent il veut être comme les autres, et quand se pose la question qu'il faut des aménagements pour l'aider en classe qui vont être visibles, bon moi si c'est quelqu'un qui a un handicap visuel comme moi, être devant, ou si des difficultés pour écrire, ça peut être l'utilisation d'un ordinateur, bon alors au jour d'aujourd'hui tout le monde utilise des ordinateurs, mais ça peut être quand même stigmatisant. Et c'est vraiment compliqué parce qu'il y a tout le travail de la personne qui est encore en plein chantier, si je puis dire, de s'identification, de s'accepter. Elle est dans ce moment délicat et en même temps se pose parfois la question pour la poursuite concrète de la scolarité d'accepter ces aménagements. Donc c'est compliqué parce que voilà, tout ce qui peut les venir les différencier, eh ben, ils n'en ont pas envie. Évidemment,
et
voilà, ça vient,
hein.
C'est compliqué.
Eh oui. Il faut passer par l'aide d'un accompagnement psychologique.
Ça peut, oui.
Ça peut, mais Ça peut aussi très bien se faire sans aide psychologique pour l'adolescent.
Ça dépend des personnes. Vous avez, vous savez, des personnes aussi qui ont un handicap, mais qui vont être dans une compensation très... surcompensation, c'est un peu les handicapables, là. C'est-à-dire un peu les superwoman et les superman qui, vraiment, se dépassent au quotidien, font beaucoup de choses, voilà. Et sont dans cette, nous, on va dire, surcompensation. C'est, compensation, c'est très bien, ça les aide, c'est leur personnalité, c'est comme ça.
Puis leurs défis,
leurs propres défis. Oui, défi, et eux, peut-être, vont soit faire par eux-mêmes ou pas toujours accepter aussi toutes les aides qu'il peut y avoir, si on reste toujours sur cet exemple de l'adolescence. Mais je crois que vraiment se pose cette question de cette identification à ce moment-là et essayer de voir avec eux les enjeux, parce que ça dépend où ils en sont de leur scolarité. Mais je crois que c'est compliqué de venir leur parler de différence à ce moment-là. Oui. Mais après, ça peut être, tout dépend comment ça leur a présenté, comme une aide, comme un moyen de faire, d'y arriver, de faire peut-être, de leur ouvrir plus de choix par la suite. Voilà. Alors, c'est toujours la question du handicap, mais je crois qu'aussi, ce qui, pour parler de ces âges-là, l'enfance, l'adolescence, ce qui peut aider un enfant, un adolescent à l'accepter, c'est aussi l'entourage, évidemment, qui fait ce qu'il peut, bien entendu, mais dans l'idéal. Voilà, plus ce sera assimilé et accepté, plus ça peut aider.
Et mieux ça sera vécu par l'enfant ou l'adolescent si l'entourage, donc les plus proches, ont fait eux-mêmes peut-être ce propre travail autour de l'handicap.
Oui, puis il y a aussi des choses qu'un enfant ou un adolescent en situation de handicap peut être amené à vivre, les moqueries ou autres. Et parfois aussi, certains protègent leurs parents, ne leur racontent pas tout des difficultés qu'ils vivent au quotidien pour les protéger aussi. Enfin, il y a aussi ça qu'il faut dire, parce qu'ils ont bien conscience du vécu de leurs parents, que c'est difficile aussi pour eux, eux-mêmes déjà doivent se débrouiller avec ça et avec le regard des autres, de ce que ça peut leur envoyer. Et les parents aussi, tout le monde est un peu dans le même bateau à ce moment-là, je crois.
Alors, on était dans le même bateau cette semaine ensemble avec nos auditeurs qui vous ont peut-être découvert, puisque je vous recevais dans cette émission des Clés pour vivre pour la toute première fois. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne et qu'on peut effectivement, et c'est tous les âges de la vie, bébé, enfant, adolescent, adulte et personne autour donc de différents handicaps que vous accompagnez. Oui. Merci Émilie Rabu et au plaisir de vous recevoir prochainement.
Merci de m'avoir reçu. Au revoir. Thank you.